Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Européens. Cette émission vous est proposée par la Maison de l'Europe et des Européens de l'An, labellisée Europe Direct en genevois français. Le sujet du jour, c'est les réseaux européens de communication. Et nous aborderons également la thématique du carnaval en Europe, notamment en Allemagne, à travers ses traditions. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Et tout d'abord, deux sujets d'actualité européenne. Tout d'abord, l'Union européenne et l'Inde officialisent la signature d'un accord de libre-échange. C'est un accord scellé après deux décennies de négociations discontinues. L'Inde et l'Union européenne ont finalisé un vaste accord de libre-échange commercial, a déclaré mardi 27 janvier le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que les deux camps cherchent à se prémunir de relations, disons, délicates avec les États-Unis. Hier, un grand accord a été signé entre l'Union européenne et l'Inde, a salué Narendra Modi. Cet accord va apporter des opportunités majeures à la population indienne et aux populations européennes, a-t-il ajouté. Nous avons conclu l'accord de tous les accords. Nous avons créé une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes qui va bénéficier aux deux parties, s'est réjouie la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. L'Europe et l'Inde ont fait l'histoire aujourd'hui. Dans un contexte géopolitique incertain, ce pacte doit permettre aux deux parties de mieux se protéger de la concurrence chinoise et des effets de la guerre des droits de douane engagés par les États-Unis. Les derniers obstacles à la conclusion du texte ont été levés lundi lors d'ultimes tractations entre négociateurs. L'Inde et l'UE espèrent qu'il va doper leur commerce en réduisant les droits de douane dans de nombreux secteurs. L'accord prévoit une réduction drastique des taxes indiennes sur la quasi-totalité des importations européennes, en particulier celles frappant les voitures, le vin et les pâtes, selon une déclaration de l'Union européenne. Pour sa part, New Delhi considère l'Europe comme une source indispensable des technologies et investissements dont elle a un cruel besoin pour accélérer sa modernisation et créer des millions d'emplois pour sa population. Maintenant, l'accord doit être débattu par les États membres de l'Union européenne au Conseil et par les représentants des citoyens au Parlement européen. Et un deuxième sujet, l'interdiction de réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La question de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur au niveau européen. Plusieurs États membres, dont la France et le Danemark, souhaitent interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans afin de mieux protéger les enfants face aux contenus violents, au cyberharcèlement et aux effets négatifs d'un usage excessif des écrans. Au niveau de l'Union européenne, le débat progresse mais reste complexe. En novembre 2025, le Parlement européen a adopté une résolution recommandant de fixer à 16 ans l'âge minimal d'accès aux réseaux sociaux, avec une possibilité dès 13 ans, sous réserve du consentement parental. Cette position n'est toutefois pas juridiquement contraignante. L'un des principaux obstacles reste la vérification de l'âge. Les plateformes numériques soulignent les risques pour la vie privée et les difficultés techniques. Pour répondre à ces préoccupations, la Commission européenne teste actuellement une solution de vérification de l'âge garantissant la protection des données personnelles. Plusieurs États membres participent à cette phase pilote. Si de nombreux pays appellent à des règles plus strictes, la Commission européenne privilégie pour l'instant une autre approche. Renforcer les obligations des plateformes dans le cadre du Digital Service Act plutôt que d'imposer une interdiction uniforme à l'échelle de l'Union européenne. Ce débat met en lumière un défi central pour l'Europe, trouver un équilibre entre la protection des mineurs, le respect des libertés individuelles et l'harmonisation des règles numériques au sein des 27 États membres.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Merci beaucoup à Marc pour cette intervention sur les actualités européennes. Et maintenant, passons à notre sujet théorique du jour. Vous entendez désormais que la Maison de l'Europe et des Européens de l'An est labellisée Europe Direct en genevois français. Alors, qu'est-ce que Europe Direct ? Il s'agit d'un service de l'Union européenne dont l'objectif est de rapprocher l'Europe des citoyens. Il s'appuie sur différents outils. Un site internet, un numéro de téléphone gratuit et surtout sur un réseau de centres présents partout en France et en Europe, au plus près des habitants. Les centres Europe Direct jouent un rôle d'intermédiaire entre l'Union européenne et le grand public, à l'échelle locale et régionale. Leur mission est d'informer, d'expliquer et de créer un dialogue autour des questions européennes. Concrètement, il accompagne les citoyens en répondant à leurs questions sur l'Europe, ses institutions, ses politiques et les opportunités existantes, notamment en matière de programmes et de financement. Les centres encouragent également le débat à l'échelle et l'échange en organisant des événements, des rencontres et des animations ouvertes à tous. Ils travaillent en lien avec les médias locaux et font remonter aux institutions européennes les attentes et les réactions des citoyens. Le réseau Europe Direct est coordonné par des représentations nationales de la Commission européenne et constitue un véritable lien de proximité entre l'Europe et les territoires. Par exemple, si un citoyen souhaite en savoir plus sur les droits en tant qu'Européen, sur la libre circulation ou sur les programmes comme Erasmus+, il peut s'adresser à un centre Europe Direct pour obtenir des réponses fiables et claires. Les centres organisent régulièrement des conférences, des débats ou des ateliers dans les écoles, les lycées ou les associations afin de mieux expliquer le fonctionnement de l'Union européenne. Ils peuvent aussi accompagner les collectivités, les associations ou les porteurs de projets qui souhaitent comprendre les aides et financements européens disponibles. En tant qu'acteur local, les centres Europe Direct participent à de nombreux événements sur le territoire, collaborent avec les médias locaux et recueillent les avis des citoyens pour les transmettre aux institutions européennes. Enfin, lors des grands temps forts européens, comme les élections européennes ou la Journée de l'Europe, les centres mettent en place des actions de sensibilisation pour informer et encourager la participation citoyenne. En France, le réseau Europe Direct compte 52 centres répartis sur l'ensemble du territoire. La région Île-de-France est celle qui en possède le plus, ce qui permet de couvrir une zone densément peuplée et d'offrir un accès plus facile à l'information sur l'Union européenne à un grand nombre de citoyens. En dehors de ces centres, on distingue deux autres types de structures dans le même réseau. Les conférenciers Team Europe Direct, ils sont composés d'experts indépendants. Ces experts se déplacent dans les écoles, associations ou lors de conférences pour expliquer les politiques européennes et les opportunités disponibles, comme les programmes de mobilité, les financements de projets ou les initiatives dans différents domaines, culture, environnement, formation, défense, etc. Les centres de documentation européenne sont souvent situés dans les universités ou grandes bibliothèques. Ces centres mettent à disposition des ressources documentaires sur l'Union européenne. Textes officiels, rapports, études et informations sur les financements européens ou les programmes de l'Union européenne. Ces différentes structures permettent au réseau Europe Direct de proposer une information fiable et adaptée à différents publics par des accueils directs, des informations pédagogiques ou des ressources documentaires. Elles offrent un point de contact concret entre les citoyens et l'Union européenne. Ainsi, la Maison de l'Europe et des Européens de l'An est devenue officiellement Europe Direct en genevois français pour couvrir le département de l'An et une partie genevoise de la Haute-Savoie, rejoignant ce réseau pour continuer à rapprocher les citoyens de l'Europe au quotidien. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Après des super bonnes nouvelles pour notre association et des faits intéressants sur l'Europe Direct, j'aimerais parler d'un autre sujet.
Moi, c'est Eva Young, je suis volontaire à Maison de l'Europe et je viens d'Allemagne et aujourd'hui, la thématique de moi, c'est le carnaval. En général, le carnaval est une fête traditionnelle qui a lieu principalement en février, juste avant le début du carême chrétien. En Allemagne, le carnaval est surtout très important dans l'ouest du pays, notamment dans des villes comme Cologne ou en Allemagne, Köln, Düsseldorf et Mayence, Mainz. Selon les régions, on utilise différents noms. Pour moi, ce n'est pas le carnaval, mais le Fasching, une expression du Sud. Mais on l'appelle aussi du carnaval ou du Fastnacht. L'origine du carnaval est la foi païenne et chrétienne. Déjà autrefois, les gens célébrant la fin de l'hiver et chassant le mauvais esprit des fêtes et des dégoûtements. Plus tard, le carnaval est devenu lié à la religion chrétienne. Avant les 40 jours de jeûne du carême, on faisait la fête, on mangeait bien et on profitait une dernière fois. Le mot « carnaval » vient du latin et signifierait « adieu à la viande ». Pendant le carnaval, la vie se transforme complètement. Il y a des grands défilés dans les rues avec des chars décorés, de la musique et beaucoup de monde. Les participants portent des costumes très variés et colorés. Personnages historiques, animaux ou costumes humoristiques. L'import est d'essayer de s'amuser, ensemble et de créer une ambiance festive. Un élément très typique du carnaval allemand, ce sont les Pfannkuchen ou les Krepfchen, Berliner ou Krapfen. Aussi, ici, il y a des conflits régionaux sur qu'est-ce que le nom ferait. Ce qui ont tout en commun, ce sont des paniers généralement fourrés à la confiture et sont recouverts de sucre glace ou des glaçages. On les mange surtout pendant les carnavals, car autrefois on utilisait tous les ingrédients gras et sucrés avant la période des jeûnes. En résumé, le carnaval en Allemagne est en fait ancienne et joyeuse, où les défilés, les dégustements et la bonne nourriture occupent une place très importante.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Et merci beaucoup Eva pour ton témoignage sur le carnaval en Allemagne. Ça me donne envie d'y aller maintenant, merci. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. On a parlé aujourd'hui de l'actualité européenne avec Marc. On a parlé aussi qu'est-ce que c'est Europe Direct et ses centres, et comment la Maison de l'Europe est devenue aussi centre Europe Direct, et aussi de carnaval en Allemagne avec Eva. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission européenne.
Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together.
Seguito arriva sabato sera. E allora è stato possibile assistere.
Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas ainsi. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An.